Soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se sent? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro
cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.
Salut les auditeurices, vous vous souvenez du cycle de podcast sur troubles psy et militantisme qui parlait pas mal de santé mentale et de faire communauté de manière générale? Je vous avais dit que d'autres entretiens suivraient et c'est parti. Je vais vous livrer plusieurs épisodes avant les vacances. Celui-ci est un peu particulier, il s'agit d'un crossover avec Lesbienne à l'ancienne en compagnie de Claire Selma du podcast Quelques raisons de ne pas disparaître sur la dépression qui est un podcast produit par La Clameur. Que je vous recommande vivement, de même que Lesbienne à l'antenne. A noter que toute la thématique qu'on aborde ici reste une thématique sensible. On y parle beaucoup de santé mentale et on rentre dans les intimes. Donc je ne peux pas forcément mettre de trigger warning sur chaque chose qui va être dite. Je vous invite à vraiment suivre le flux de ce qu'on présente au fur et à mesure comme sujet pour vous écouter aussi vous-même et vous maintenir à l'écart du poste ou bien de passer certains passages qui vous sembleraient plus difficiles. On y parle tout au long de dépression, de certains diagnostics, de rapport aux institutions médicales et de certains vécus, de certaines anecdotes qu'on a pu avoir. Donc voilà, je vous invite à vraiment faire attention à vous en écoutant ce podcast et à faire attention à ce que vous ressentez, à ce qui vous active et à vous faire confiance là-dessus. Prenez grand soin de vous. Cet épisode sur la santé mentale sera en deux parties. Dans la première, celle que vous allez écouter là tout de suite, on parle pas mal de rapport à soi, de rapport aux institutions aussi, et de rapport aux autres. Mais je laisse la parole à Juliette pour la présentation. Bonne écoute!
Et ce mois-ci, dans la rubrique des incroyables queer et lesbiennes du mois, nous avons le plaisir de vous proposer un format inédit d'interview croisée à trois voix, entre trois podcasteuses que nous sommes, qui abordent la question de la santé mentale, des troubles psy, à la première personne, chacun une à sa manière. Donc peut-être pour vous raconter un peu le processus, on a partagé les questions qu'on aimerait se poser, on les a rapprochées et ça nous a donné un peu quatre grandes thématiques. Comment parler de ce qu'on vit? Quel rapport pluriel aux institutions médicales? Quel rapport pluriel aux autres? Et puis à soi. Du coup, je me disais peut-être avant de commencer, si vous avez envie de vous présenter vous et vos émissions.
Bon bah j'y vais alors. Donc moi c'est Eclo, je fais le podcast Au bord des corps qui parle des vécus des personnes minorisées vis-à-vis des oppressions systémiques. Et dernièrement j'ai débuté un cycle sur les neuroatypies et le militantisme et comment on fait communauté malgré nos différentes santé mentale, troubles psy, neuroatypies. Et je suis très heureuse d'être là parmi vous.
Salut, moi c'est Claire Selma, je fais un podcast qui s'appelle « Quelques raisons de ne pas disparaître » qui est produit par le studio associatif La Clameur. Et c'est un podcast qui parle de la dépression et qui croise des regards de plusieurs personnes qui ont vécu des dépressions, mais aussi de sociologues ou soignants-soignantes qui parlent de la dépression. Et je suis également vraiment ravie d'être là.
Et du coup, Juliette, de Lesbienne à l'antenne, c'est la première fois que j'aborde cette thématique dans cette émission. Je trouvais ça un peu touchy de mêler les questions de lesbienne et de santé mentale. Et en même temps, j'avais pas envie d'en faire un tabou. C'est un sujet qui me concerne, qui concerne plusieurs de mes proches. Et du coup, bah, l'enjeu, c'est aussi comment on fait pour en parler. Voilà, donc c'est un peu le premier bloc thématique qu'on avait sélectionné.
Voilà. Donc, pour débuter, on va parler de comment justement parler de ce qu'on vit. Et j'avais une première question. Quelle place de véritable catharsis, voire de remède, prend la prise de parole sur la santé mentale dans vos travaux? N'y a-t-il pas des moments où cela nous expose encore plus durement, nous poussant à la confrontation avec nos troubles, maladies, et donc nous fatigue également? Et est-ce que vous le faites vraiment dans un rapport libérateur, ou est-ce parfois une charge, voire un devoir, entre guillemets, pour vous que de parler de ces enjeux et donc quelque chose qui peut être aussi trigger ou fatigant.
Ben, moi, je trouve que c'est une excellente question, parce qu'on parle beaucoup de la libération de la parole d'une manière générale, et comme si ça aidait toujours de parler. Et moi, je trouve que non, ça dépend du contexte, ça dépend de quelle intention on met derrière. Et moi, j'ai beaucoup de mal à parler de ma santé mentale. C'est pour ça que j'en ai fait un podcast pour en parler une seule fois. Et je trouve que souvent, j'aborde la santé mentale parce que je sens que c'est important de l'aborder, mais pas pour me libérer moi, pas pour me faire du bien, mais plus pour ouvrir la discussion parce que je sens que c'est un message important à faire passer. Mais du coup, je trouve que c'est une excellente question que tu poses parce que souvent, on voit la parole comme libératrice et je pense que ça peut être le cas. Mais moi, personnellement, dans mon parcours, on va dire, ça n'a pas forcément été le cas. Par contre, je pense que de parler, ça permet de donner des clés de lecture à la personne à qui on s'adresse, donc que ce soit un ou une amie, un partenaire, etc. Et ça lui permet, je pense, à l'autre de mieux nous décoder, nous, et donc finalement que la relation se passe mieux. Mais sur le moment, ça va pas faire du bien. Mais c'est vraiment dire, bon, voilà, là, je vais peut-être réagir comme ça, c'est parce qu'il y a telle chose, et donc ne t'inquiète pas. Ou à l'inverse, inquiète-toi si je fais ça. Mais je le vois plutôt comme ça maintenant. La parole, pour moi, c'est soit un instrument presque politique, soit un instrument dans mes relations pour expliquer en fait ce qui se passe, parce que les gens savent pas ce qui se passe dans nos têtes. Mais je le vois pas comme quelque chose qui particulièrement me fait du bien sur le moment et qui me déleste. Enfin, je sais pas pour vous, du coup, comment c'est.
Je trouve ça trop intéressant, tout ce que tu dis. Du coup, pour pas dire les mêmes choses, moi, là où ça pourrait avoir une dimension libératrice, c'est un peu comme contrepoint par rapport au niveau de honte et de culpabilité que je peux avoir. Le moment où j'arrive à dire, moi, on m'a donné tel diagnostic, ou en ce moment, je suis dans tel état, et du coup, ça me rend pas possible de faire ça. Il y a quand même un truc de arrêter de cacher, parce que le fait de cacher a un coût aussi énorme. Après, je suis d'accord sur le fait que le fait de parler aussi a un coût énorme, dans le sens, la honte est atténuée, mais par contre, la peur des conséquences, et notamment que la parole ne soit plus prise en compte, et tout le stigmate qui pourrait délégitimer en cas de conflit, c'est comme une menace, c'est vraiment une menace énorme, quoi. Donc ça demande un certain niveau de confiance, parce qu'en réalité, j'ai tout le temps peur que ça puisse être utilisé contre moi. Voilà.
Oui, je vous rejoins pas mal là-dessus. Moi aussi, je trouve ça très exposant. En même temps, c'est rassurant de le faire derrière son micro, d'abord chez soi. Mais après, c'est vrai que, pareil que toi, Claire, je me disais un peu, j'en parle dans mes podcasts, donc après, j'ai plus envie d'en parler dans la vraie vie. Et en fait, tout le monde n'écoute pas les podcasts. Et à l'inverse, j'avais peur aussi que d'être enfermée dans une étiquette, du coup, et que les gens ne retiennent de moi que ça et m'enferment dans les troubles que j'évoque dans mes podcasts. Mais pour l'instant, ça va à peu près. Juste, j'essaye de, quand il y a certains sujets que j'ai pas envie de réaborder, de renvoyer les gens justement vers l'écoute des podcasts pour ne pas avoir à redire tout ce que j'ai dit qui peut être un peu pesant pour moi. Et du coup, j'avais une seconde question dans la même lignée, c'est est-ce que vous faites régulièrement du coup l'expérience du coming out forcé sur votre santé mentale, ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à tenir confidentiel le plus longtemps possible, de manière générale, là, cette fois, que ça soit dans les entretiens d'embauche, lors des nouvelles rencontres, auprès des organismes médico-sociaux, est-ce que vous mentionnez ce qui est lié à votre santé mentale, à vos troubles, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à garder pour vous ?
Alors moi, je suis vraiment dans une politique de cachet. En même temps, je suis de parler dans un podcast, mais en tout cas au travail, c'est clair. Même si, en fait, le fait de travailler avec des soignants, ça fait que je sais que les gens, ils voient des trucs. Enfin, en fait, c'est pas possible autrement. Et elle me voit, je sais qu'elle me voit, je la vois aussi. Bon, voilà, il y a tout un jeu, mais en fait, qui peut aussi être sur d'autres thématiques que celui de la santé mentale, et qui est un jeu bon, parfois drôle et parfois triste. Mais en tout cas, je nomme pas. Il y a un petit enjeu par exemple avec la médecine du travail à l'entretien parce que enfin au début de la prise de poste parce que c'est pareil, ça pourrait en cas de conflit si jamais il se passe je sais pas quoi, ça pourrait être à la fois utilisé contre moi que je le dise ou utilisé contre moi que je le dise pas, mais je suis plutôt dans pas le dire. Je pense que ça m'arrange, ça fait partie un peu de ma politique de déni et de tant que tout va bien, tout va bien. Et après, bah, y a quelques très proches ou deux personnes dont je sens qu'elles sont concernées par les mêmes choses et qui ont une capacité à comprendre. Mais globalement, j'en parle le moins possible. Sauf quand je sens aussi que ça peut aider l'autre à parler aussi. Mais ouais, j'en parle pas trop.
Ben, je trouve que le travail, en fait, c'est un peu un catalyseur de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, en soi, oui, il faudrait pouvoir en parler pour pouvoir éventuellement avoir accès à certains dispositifs, type mi-temps thérapeutique dans les moments où vraiment ça, c'est la cata. Enfin, sauf qu'en fait, on sait le stigmate et les préjugés qu'il y a sur les troubles mentaux d'une manière, enfin sur le handicap d'une manière générale d'ailleurs, quel qu'il soit. Et du coup, mais moi ça ne me viendrait pas à l'idée d'en parler à mes RH. Jamais. Parce que je les ai déjà entendus parler de personnes dont elles connaissaient le diagnostic. Elles me l'ont dit à moi alors que je n'avais pas à le savoir. C'est du secret médical. Enfin, et dans des termes évidemment très peu amélioratifs. Hein. Et du coup, elle ne savait pas, évidemment, moi, quel était mon diagnostic. Et j'étais là, mon Dieu, en fait, elle parle de moi. En parlant de cette autre personne, en disant qu'elle est... bref, je vous passe les termes vraiment insultants. Et du coup, moi, je fais la technique du sous-marin aussi. C'est une technique assez coûteuse, en effet. Parce que du coup, on pose des jours, on a l'impression de pas être fiable. Enfin, toutes ces problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres sphères de notre... dans notre vie, mais en même temps, la réalité du monde du travail, c'est c'est pas un monde accueillant pour la diversité d'une manière générale, et encore moins pour les troubles psy et les handicaps physiques. Donc ouais, moi je suis comme toi, Juliette, vraiment en technique du sous-marin, on dit rien. Et on voit. Et le problème de cette technique, c'est que du coup, ça coûte deux fois plus d'aller au travail. Parce que du coup, on passe beaucoup de temps à faire comme si tout allait bien. Alors que ça ne va pas. Et je pense que c'est un peu un accélérateur de burn-out. Dans le sens où on se bat sur trop de fronts en même temps, quoi. On se bat à l'intérieur, on se bat à l'extérieur. Il n'y a pas d'espace aménagé ou quoi que ce soit pour juste faire des pauses. Et donc je pense que je plaide contre ma paroisse, mais je fais cette technique et je pense que c'est une mauvaise technique, mais j'ai pas trop d'alternatives pour le moment vu la manière dont t'as organisé le travail, quoi. Et sur la question et je mets des guillemets du coming out forcé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pas agréable du tout. C'était quelqu'un de très bien intentionné qui voulait vraiment savoir comment ça se passe, qui avait peut-être quelqu'un dans son entourage qui était concerné. Mais c'est vrai que ça surprend, quoi. Moi, j'étais pas préparée et la personne est venue vraiment avec les meilleures intentions du monde, mais j'étais là, waouh, pourquoi tu me ressors mon diagnostic médical? Comment tu le sais? J'étais un peu saisie, quoi, par le moment. Et j'ai une position un peu ambivalente. Je me dis que en fait, la plupart des gens qui viennent nous parler pour parler de ça, c'est souvent qu'en fait, ils sont concernés. Indirectement ou directement. Il y a parfois un petit peu de la curiosité un peu mal placée, mais dans mon expérience, c'est extrêmement rare. finalement, les seules fois où ça m'est arrivé, moi, ça m'a surpris et j'étais un peu froid. Alors qu'en réalité, la personne avait vraiment des bonnes intentions et juste, son frère venait d'avoir un diagnostic ou sa cousine ou sa copine et elle voulait juste savoir est-ce que ça va bien se passer, quoi. Donc, j'ai une position un peu ambivalente où moi, j'ai réagi un peu de manière froide et, j'étais en mode « Ah, pourquoi tu me parles de ça ?» Et alors qu'en fait, c'était juste, dans les cas qui me sont arrivés, des personnes vraiment très mimi et perdues, quoi, et qui étaient en mode « j'ai pas d'infos, quoi ». Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas hyper bien réagi et rétroactivement, je me dirais « je poserais la question ». Plutôt que de réagir un peu tendu, je demanderais pourquoi tu me poses cette question ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné autour de toi ? Voilà, avant de réagir un peu de manière tendue. Et toi, Eclo, du coup ?
Moi, dans mes dernières expériences de travail en équipe, j'avais fait la technique du sous-marin également. Parce qu'en plus, c'était très compliqué pour moi d'en parler de manière générale. Mais c'était une équipe qui faisait beaucoup de blagues là-dessus, des blagues psychophobes, des blagues grossophobes. Et c'était vraiment très, très compliqué pour moi de manœuvrer dans cet univers-là. Et du coup, j'essayais de construire un mur mental pour m'en protéger. Et en fait, ça m'a été reproché après, justement, de pas assez être dans la dynamique d'équipe, de pas assez... prendre part aux blagues, aux repas, etc., etc. Et ça m'a beaucoup affectée. Et après, plus sur un côté études, j'avais repris un semestre en classe préparatoire professionnalisante au conservatoire. Et là, au début, j'avais pas expliqué. Puis finalement, en fait, comme l'emploi du temps n'était pas du tout adapté à mes besoins et à mes troubles, j'ai fini par en parler... au service responsable de ça au conservatoire. Et il y a des aménagements qui ont été pensés, mais en fait, c'était pas du tout suffisant. Et j'ai fini par partir parce que de toute façon, l'institution du conservatoire et je voulais pas passer les concours, donc il y avait d'autres raisons, mais aussi parce que c'était très pesant et c'était pas du tout adapté. Par contre, là où j'en ai parlé, c'est à Pôle emploi. Parce que du coup, maintenant, je suis au RSA et inscrite à Pôle emploi. Et j'en ai parlé très vite pour expliquer... en quoi ça pouvait freiner ma recherche de travail. Et ça m'a redirigée vers du coup la branche RSA santé. Et on m'a un peu plus fichu la paix là-dessus, en comprenant que du coup je pouvais pas revenir dans n'importe quel emploi tout de suite. Et du coup ça a un peu allégé mon suivi là-dessus, ça a été plutôt bénéfique.
Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Eclo. Je trouve que ça montre bien, on en parlera tout à l'heure, mais l'ambivalence par rapport au diagnostic, au fait que on les critique, je pense, souvent à juste titre, mais dans le cadre administratif, c'est une aide. Et je pense que dans ce qu'on disait sur le monde du travail, idéalement, en fait, ça devrait être ça. Idéalement, ça devrait être ok, tu as tel besoin. Tout simplement, tu es en fauteuil roulant, tu as besoin de toilettes adaptées et de pas avoir à prendre l'ascenseur tous les jours. Du coup, on fait en sorte de mettre tes bureaux au rez-de-chaussée ou, il y a des toilettes adaptées. Et de fait, c'est pas fait. Et je trouve que ça montre bien ça, ce que tu décris, sur le fait que, parfois ça peut l'être et en fait, quand ça l'est, c'est bien. Parce que du coup, ça soulage d'un poids, quoi.
Je ne sais plus fermer les yeux, je vis mon rêve, alors je ne dors pas. De peur ne pas exaucer. Je raccroche et ne parle à personne. C'est à croire que je suis devenue folle.
je dors. Je regarde ma vie de loin. Je ne vais pas très bien. Je m'inspire de ma douleur. Je ne regarde même plus l'heure. Que quelqu'un m'attrape avant que je m'en aille. Que quelqu'un m'attrape avant que je m'en aille. Je ne sais plus fermer les yeux. Je vis mon rêve alors je ne tarde pas. Je raccroche et ne parle à personne. C'était croire que je suis devenue folle. Putain, il faut que je dors.
Et du coup, mais moi, mes questions, c'était autour du stigmate, justement, donc, qui rejoint vachement ce qu'on est en train de se dire sur quand le dire, où le dire, pourquoi le dire. Et ma question, du coup, c'est peut-être... vous, quel est votre rapport à cette notion de stigmate? Donc le stigmate, c'est quand même un truc assez fort. Enfin, c'est un concept de socio où c'est un processus qui met à l'écart du groupe. Et je voulais savoir si vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre lien au... on sait jamais trop comment les nommer, mais on va dire assez trouble. Est-ce que vous, vous avez ressenti un processus de stigmatisation? Et question dans la question, par rapport à ce que tu disais, Juliette, en introduction, sur LGBT et troubles mentaux, comment est-ce que vous les avez articulés? Parce que moi, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé aussi. Comment vous avez fait pour démêler tout ça, alors qu'il y avait potentiellement cette stigmatisation des troubles mentaux, mais potentiellement aussi une double stigmatisation, au moins dans le passé, à un moment donné, ou peut-être que vous l'avez pas du tout vécu comme ça. Mais du coup, ça m'intéressait d'avoir votre parcours là-dessus.
Wow, la question est énorme. Pèse dessus. Du coup, je vais répondre déjà sur le truc du stigmate. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup intériorisé. Ça c'est vraiment la première conséquence, c'est genre comment je me parle à moi-même de « oh mais je suis complètement folle » tout le temps, aussi qu'est-ce que ça induit dans les doutes par rapport à mes perceptions de « est-ce que j'ai bien compris ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est moi qui suis folle ou est-ce qu'il s'est vraiment passé ça ?» Et notamment dans le rapport au conflit, aux violences, ça induit plein de... ça reproduit le fait de... C'est pas forcément que l'autre personne, elle m'a gaslighté, mais en tout cas, le truc est tellement sidérant que ça m'a pas l'air réel. Enfin, je sais pas, il y a plein de moments un peu où ça m'empêche d'appréhender avec justesse la situation, ou ça m'empêche de faire confiance à mon jugement, à mes sensations, à mes émotions. Et ça, je pense que c'est le truc qui m'handicape le plus dans ma vie. Donc normalement, c'est circonscrit à des périodes de crise, mais ça peut aussi arriver dans des trucs de quotidien. Est-ce qu'on met ça sur le stigmate ou sur le trouble ou les deux? Sur comment c'est mélangé avec aussi l'homophobie, la lesbophobie. Je pense que c'est mélangé dans le sens où, les injures qu'on reçoit ou les violences qui n'ont pas l'air d'injures mais qui en sont quand même, elles sont mélangées. Enfin, je veux dire, pour moi, les stigmates que j'ai de moi, le mépris que j'ai de moi-même, il est mélangé de tout ça. Et quand j'entends, par exemple, à mon travail, une psychologue dire « Ah oui, mais en fait, la paranoïa, c'est de l'homosexualité refoulée » ou des trucs, non mais vraiment, des trucs qui voilà. Je vois que, en tout cas, l'influence psychanalytique, elle a vraiment, à plein d'endroits, créé cette idée que, en fait, l'homosexualité, c'était un trouble psy et que... du coup, ça fait se poser la question de est-ce que je ressens est réel, voilà. Aussi en lien avec le trauma de genre donc j'animais une formation la dernière fois et il y a des gens qui m'ont dit mais en fait toutes les lesbiennes elles ont vécu des viols et c'est pour ça qu'elles sont devenues lesbiennes et voilà, ça prend du temps pour détricoter ce truc là pour essayer d'expliquer voilà, je vais pas expliquer ici mais peut-être qu'il faudrait, mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces pensées là qui sont auto-agressives en fait finalement. Et après, ben l'autre, comment dire, quand on renverse le truc, j'ai l'impression que le fait d'avoir assez identifié clairement la misogynie et la lesbophobie des institutions médicales et des médecins en particulier, ça m'a permis d'avoir plus de recul par rapport à leurs avis parfois, à leurs diagnostics, à ce qu'ils me disaient de faire ou de pas faire, à ce que j'estimais juste ou pas juste. Et du coup, c'est comme si ça m'avait quand même un peu armée à avoir plus de discernement face à l'institution, parce que je sais que il y a plusieurs communautés qui sont structurellement opprimées par les institutions médicales. Et du coup, voilà, comme un petit outil de résistance. J'ai fini de parler.
Moi, concernant le stigmate, oui, je le sens vraiment au quotidien, que je parle de mes troubles ou pas. J'ai l'impression que de toute façon, on les décèle et que c'est comme si on m'attendait au tournant et que les gens essayaient de décrypter tout ce que je faisais de bizarre, quoi. Après, par rapport au lien avec la LGBT-phobie, j'ai eu une expérience très parlante à ce niveau-là avec un psychiatre. Mélangeait tout, et quand je lui disais que j'étais pas intéressée par les hommes cis, trouvait que c'était qu'il y avait là forcément un trauma et un trouble, quelque chose de pathologique là-dedans, et que c'était forcément lié avec ce que je vivais. Et pareil, concernant la non-binarité, quand je disais que je me reconnaissais pas dans les cases ni homme ni femme, il a tout mis sur le même plan et tout mélangé, et du coup maintenant c'est vrai que c'est quelque chose que je tais vis-à-vis de, enfin, alors j'ai une psychologue qui est associée à l'association dans laquelle je suis bénévole et qui est une association LGBT, donc du coup qui est bien au fait de tous ces sujets là donc j'ai pas besoin de taire le côté queer de ma vie. Mais par contre, les psychiatres que j'ai pu voir depuis cette expérience avec ce psychiatre-là, je leur ai jamais dit, j'aurais jamais parlé de non-binarité, ni de lesbianisme, ni de quoi que ce soit, parce que je veux justement pas qu'on mélange tout ça. Donc je ne parle que de ce que je vis en termes d'expérience de trouble avec LE. Mais oui, du coup, ce double stigmate, il est bien présent et toujours très d'actualité aujourd'hui. Et toi ?
Ben moi, c'est un truc qui m'a beaucoup questionnée sur différents plans. D'abord parce que j'avais vachement entendu dans le militantisme tout ce discours autour du fait que les LGBT ne sont pas malades, ne sont pas folles et fous. Et du coup, moi j'arrive, quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, mais alors du coup, moi je suis fou. Enfin, comment dire ? Moi, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Et du coup, avec aussi ce truc à voir les identités qui se mélangent et à faire un espèce de grosse salade là-dedans. Et c'est seulement là, récemment, que j'arrive à démêler un peu et à me dire, bah oui, à un moment, par rapport à l'institution médicale, c'est un discours qui a pu être efficace de dire nous ne sommes pas malades. Parce que sur ce plan-là, c'était vrai. Mais ça n'inclut pas le reste, et ça n'implique pas tout le reste. Et il y a ça aussi, ouais, vachement avec la question des traumas, et dire, bah, est-ce que mon attirance, elle vient... Enfin, vu que c'est un discours que t'entends vachement, moi, à un moment, c'est un truc où je me suis posé la question, quoi, où je me suis dit, mais ouais, est-ce que vraiment je fais des liens? Et puis tu le sens intérieurement que c'est pas le cas. Mais c'est vachement dur, et je pense qu'on en parlera après sur le rapport aux institutions médicales, mais moi j'ai pas eu le même rapport que toi, Juliette. Et j'ai eu un rapport beaucoup plus, genre, je fais tout ce qu'on me dit. Et sans doute du fait de nos parcours aussi différents, quoi. Et bref, du coup, enfin, moi, je trouve que c'est des questions encore maintenant assez dures à démêler et que... Ouais, se dire, bon, bah, en fait, c'est des luttes différentes, quoi. Il y a la lutte contre la médicalisation. Et ça, faut la tenir. Ça a été le cas pour les lesbiennes et les gays. Maintenant, c'est le cas pour les personnes trans, où je pense qu'il faut qu'on tienne ce discours de dire, en fait, on n'est pas malade. Et et genre, là, aujourd'hui, quand on est trans, on rentre dans un parcours d'affection longue durée. C'est quand même un délire que on ait ce terme-là, quoi. On a le terme, mais comme pour les troubles mentaux, on a cette étiquette ALD qui, en même temps, permet des remboursements et sur lequel, du coup, franchement, on va pas. Enfin voilà, qui est très utile en soi, mais la symbolique est quand même lourde. On est encore considéré comme malade, même si depuis 2013, la transidentité est plus une maladie mentale selon l'OMS, ben en fait en pratique, si ça le reste. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à lutter contre la médicalisation et en même temps en parallèle reconnaître que oui, il y a des enjeux de santé mentale chez les personnes LGBT et en fait il y en a encore plus que dans la population cisgenre hétéro parce que il y a plus de violence, plus d'agressions, etc. Mais je trouve que c'est une ligne qui parfois est dure à tenir individuellement parce que on peut dire ça, mais en fait individuellement les choses se mélangent vachement et moi je suis assez perméable à ces discours un peu médicaux et je me dis oulala, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire sur moi, sur mes attirances, sur comment je me ressens, enfin bref, je trouve que je vois maintenant les choses plus clairement, mais ça reste dur à tenir à l'intérieur. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais mm-hmm. Voilà.
Carrément. Et j'ajouterais que justement, actuellement, par exemple, je parlais du fait de ressentir très fort ce stigmate, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de renverser. Et aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai envie de revendiquer cette folie et sur le modèle des Mad Pride, des fiertés folles, de me ressaisir de cette intersection entre LGBT-phobie et psychophobie et validisme, et de revendiquer justement, qu'on sort de ces normes-là et que, oui, on est fou par rapport à un regard social, que ça soit dans nos attirances ou dans d'autres choses, mais de pouvoir... justement revendiquer ces chemins de traverse, ça me semble hyper important, mais c'est hyper difficile à faire d'un point de vue militant parce que déjà, des folies, il en existe autant qu'il existe de personnes, quoi. Et donc c'est difficile de s'associer collectivement pour renverser tout ça, mais je trouve que c'est un discours que j'ai de plus en plus envie de porter, de réapproprier ce terme et de le revendiquer, ouais.
Moi, je voulais juste rajouter une anecdote qui était le fait que au moment où il y a une psychiatre qui m'a donné un diagnostic, alors que je l'ai vu deux fois, vraiment une des premières pensées, c'était « elle dit ça parce que je suis lesbienne, en fait ». Et du coup, bon, voilà, c'est juste l'anecdote que je voulais raconter. Donc, et après, deuxième pensée, c'est « ah, mais je suis parano ». Voilà, et donc, je sais toujours pas trop quoi faire de ça. Mais du coup, ça va dans le sens de la théorie des sous-marins et de ne pas parler d'orientation sexuelle avec les psys, parce qu'en fait, leur regard dessus, ils pathologisent tellement que du coup, ça empêche la vraie discussion, quoi. Et du coup, ça m'amène vraiment, parce que je trouve que t'en as un tout petit peu parlé, Claire, mais du coup, j'ai envie qu'on approfondisse un peu sur... dans quelle mesure, en fait, les oppressions systémiques qu'on a vécues individuellement, enfin, je veux dire qu'on a vécues dans nos vies, quel lien on fait avec les troubles qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est ma question.
Ben, du coup, je rebondis sur le truc que tu disais avant, Juliette, sur le fait que potentiellement, alors je reformule ce que tu as dit, tu me dis si je me trompe, mais que d'être lesbienne, que d'avoir de comprendre qu'en fait il y avait de la lesbophobie dans les institutions, ça t'a peut-être préparé à la, on va dire, confrontation avec le monde médical. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, t'es pas arrivée naïve, je mets un peu des guillemets, mais face à ces institutions-là. Et tu t'es dit, typiquement, ok, en fait, je suis pas neutre dans cette institution, je sais que je vais être catégorisée. Et moi, j'ai pas vécu ça. Moi, je suis bi et j'ai pas vécu de lesbophobie. Et du coup, je pense que c'est là où, en fait, tout ça, ça change tout. C'est que moi, j'ai l'habitude de passer inaperçue, de passer sous les radars. Et de me dire, si tu le dis pas, on le sait pas. C'est un peu faux, mais je me suis construit cette idée-là. Et du coup, moi, je joue à 100% le bon patient, quoi. Donc, moi, je suis arrivée dans l'institution psychiatrique, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai minimisé les effets secondaires parce que je me disais qu'il fallait, il fallait pas trop déranger et tout, fallait vraiment 100% compliance, quoi. Et en fait, c'est complètement foireux aussi comme technique parce que, du coup, tu minimises beaucoup ce qui t'arrive et surtout tu ne comprends pas qu'en fait tu n'es pas dans une institution neutre, que tu es dans une institution classiste, sexiste, LGBTphobe et raciste. Et donc du coup tu saisis pas en fait tous les enjeux de l'institution. Moi, il n'empêche que de fait ça m'a quand même, j'ai eu la chance de tomber sur une psychiatre notamment qui était vraiment bien, qui était une femme jeune et racisée, et du coup je pense que ça a beaucoup joué aussi sur nos rapports. Mais je suis arrivée vraiment en mode, ok, on va jouer le jeu à 100% de ce truc, et je pense que c'est pas bon en fait, parce que du coup potentiellement tu es pas traitée correctement non plus, et bref, du coup il y a pas de bonne façon de faire. Mais je trouve que la façon de faire que t'as eu qui est plus méfiante, c'est-à-dire, ok, tu me dis ça, mais pourquoi en fait? Pourquoi je suis dans telle case et pas dans telle autre? Et pourquoi tu me prescris tel médicament et pas tel autre médicament? Et pourquoi tu me prescris un médicament alors que je t'ai dit que je voulais pas de médicament? Enfin, je pense que c'est finalement une attitude plus constructive. Ça peut paraître, tu es un peu la patiente ou le patient un peu relou, mais en fait, il vaut mieux ça parce qu'en fait, c'est ta santé, quoi, c'est pour toi. Et ouais, je pense qu'il faut pas faire... moi, j'ai reproduit mon attitude sous-marin avec les institutions médicales, et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais je pense que d'une manière générale, l'attitude plus méfiante est peut-être, plus productive.
Oui, pareil, suite à cette expérience avec le psychiatre, j'ai aussi plutôt opté pour l'option sous-marin depuis, du coup. Mais et après, j'ai parlé aussi d'ambiphobie, de lesbophobie, de psychophobie par rapport à ce psychiatre, mais il y avait aussi du sexisme ordinaire très flagrant. Et je pense que ce qui est très particulier aussi en France, c'est encore le poids de la psychanalyse aussi dans toute la psychiatrie, et le fait que très vite tout est ramené à des rapports au père, aux parents, à complexe d'Oedipe, à des choses comme ça, et c'est encore très très prégnant. Alors il y a de plus en plus de psychiatres qui font plutôt des thérapies cognitivo-comportementales, mais il y a quand même un grand panel de psychiatres qui, même sans se revendiquer psychanalystes en tant que tels, sont irrigués par toutes ces pensées, et que c'est un gros problème dans les biais et les angles qu'elles arrivent à aborder, parce que du coup, il y a énormément de sexisme et de LGBT-phobie dans ces visions-là, et que c'est très très dur de se raconter, de se dire face à des personnes qui sont ancrées dans ces carcans d'analyse psychanalytique, quoi.
Je fais le lien à la fois avec la question d'après et aussi pour réagir à ce que tu avais dit avant. La question d'après, c'est le lien aux institutions médicales et aux médicaments, à la fois pour soi et pour les autres, parce qu'en fait, ma stratégie de résistance, elle a marché parce que je suis blanche, parce que j'ai fait Sciences Po, parce que j'ai 30 ans plus, parce que j'ai un travail qui me donne un revenu, qui me permet de vivre sans la hache, en fait, et qu'il y a voilà, donc c'est, il y a des trucs de ma place sociale et il y a des trucs du contexte, mais que malgré tout ça, j'ai quand même senti que ma résistance pouvait aussi être pathologisée et que le fait de pas accepter le diagnostic, le fait de refuser l'aide, entre guillemets, médicale, ça pouvait être aussi utilisé contre moi et aussi à l'inverse, qu'il y a aussi des moments, des personnes ou soi-même qui ont vraiment besoin du soutien médical et qui, parce qu'elles sont traumatisées, des violences qu'elles ont déjà vécues, n'en veulent pas, alors qu'en fait, peut-être qu'un meilleur médecin, un meilleur contexte serait bénéfique, mais en fait, le trauma, il est trop grand. Et peut-être, c'est vrai que les troubles, ils jouent aussi sur comment on peut faire confiance aux institutions ou pas. Et du coup, je suis très ambivalente par rapport au truc. Il y a des moments, il y a des copines qui me disent « Ah, le médecin, il m'a prescrit tel médicament. » J'ai envie de lui dire « Ah bon ?» Mais en même temps, je pense que ça fait partie quand même du chemin de se rétablir, que de, à un moment, choisir le sens qu'on donne aux choses et choisir une direction, essayer, voir si ça marche ou pas, essayer autre chose, mais le décider par soi-même. Et du coup, bon voilà, je ferme ma bouche. Mais en fait, voilà, pour dire qu'il y a... Je crois pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon, il y en a une pour chacun une, et qu'il faut qu'on... Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de vraiment faire attention à pas dire ce qu'il faut ou pas, et je sais que c'est difficile parce que... Enfin, j'ai envie de me protéger moi-même, j'ai envie de protéger les autres, voilà, mais je sais pas, en fait, je sais pas, ça se trouve, le médicament qu'on m'a donné, si je l'avais pris, bah, peut-être ça, je serais... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse, quoi. Voilà. Donc c'est une question, voilà, c'est ça ma question.
Ouais, de mon côté, je te rejoins vachement sur cette articulation entre les oppressions subies et les privilèges qu'on a, et comment ça joue, parce que à la fois, du coup, moi j'ai résisté à ce psychiatre qui essayait de me mettre dans des cases, enfin, clairement, il était à deux doigts de traiter d'hystérique, quoi, parce que je refusais ses diagnostics, et quand il me disait que je n'étais pas en état de faire mes propres choix, que j'avais pas mes capacités cognitives, intellectuelles, etc. Et ce qui m'a permis de sortir de ça, c'est effectivement de mobiliser, de prouver le contraire, en fait, et de mobiliser toutes les ressources que j'ai de mon parcours académique, de ma blanchité aussi, qui m'a permis d'avoir un accès à tout un tas de connaissances du corps social dominant. Et je pense que j'aurais pas été écoutée quand même de la même manière si j'avais été une personne racisée, c'est clair. Et du coup... ouais, tout ça joue énormément. Et moi, maintenant, par rapport au rapport aux institutions médicales, la manière dont j'agis, bah, c'est que je vais un peu piocher ce dont j'ai besoin, effectivement, chez les uns et une. Par exemple, je vois une psychiatre, clairement, qui ne m'irait pas du tout en termes de travail, de parole, d'écoute, etc. Mais c'est la psychiatre que je vois pour mes médicaments et... pour les renouvellements d'ordonnances, et j'ai trouvé des traitements qui ne règlent pas tout en termes de crise d'angoisse, etc., mais qui agissent quand même, je pense, en filet de sécurité, et du coup, bah, j'ai besoin de ces médicaments-là, et donc je vais chercher ça chez cette psychiatre, et j'ai essayé de trouver une psychologue à moindre coût, en passant par les associations, pour... faire un autre travail plus de discussion, mais après le frein financier est toujours bien là et fait que je la vois très peu finalement. Et du coup, je me retrouve beaucoup à... Alors, j'utilise l'institution médicale plus pour oui, les médicaments de filet de sécurité, comme je disais, mais par contre, pour ce qui est du travail plus en profondeur, bah, finalement, je me retrouve à aller piocher dans d'autres ressources personnelles et d'autres méthodes, on y reviendra par la suite, mais oui, je me tiens le plus à distance possible de cette institution psychiatrique que je sais être très dangereuse, même pour les troubles que j'ai. Alors après, j'aimerais bien, par exemple, me tourner vers des TCC, thérapie cognitive comportementale, pour certains troubles que je semble identifier. Mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie, j'ai pas, sûrement pas l'argent, etc. Et c'est, il y en a pas sur Bordeaux qui correspondent à ce que je recherche, donc il faudrait que je parte à Lyon. Enfin, bref, c'est compliqué, donc je l'ai mis plutôt à distance. Mais je sais que pour d'autres troubles, par exemple, ce qui est trouble comportement alimentaire, ce serait très, très exposant pour moi de me confronter à l'institution médicale, parce que c'est beaucoup, beaucoup de forçage, de mesures, d'encadrement très strict et très pesant, et que je pense que l'institution psychiatrique peut aider pour certains troubles, et certaines personnes peuvent assurer un espace de sas, de... Puis ça dépend aussi de certaines institutions, même si ça reste des institutions intrinsèquement violentes, il peut y avoir des endroits où on se sent bien et où on se sent pris en charge. Mais pour ces troubles-là, pour moi, c'est niette, quoi. C'est pas possible.
Ben, je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit. Pour moi, l'ambivalence, elle est bien. En fait, c'est l'endroit où je suis maintenant par rapport à l'institution médicale et à la psychiatrie. Et en fait, je pense que c'est le bon endroit. Parce que moi, il y a des choses qui m'ont aidée à l'hôpital. Je sais pourquoi ça m'a aidée. Je sais, bah, comme tu dis, enfin comme vous dites, que bah, j'ai pas subi les mêmes violences du tout que racontent d'autres personnes, parce que je suis à la place où je suis et qu'il y a une place privilégiée. Il n'empêche qu'il y a des choses qui m'ont aidée à l'hôpital. Et du coup, ça, je prends. Donc, je retiens. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah là, ce qui m'a aidé à l'hôpital, c'est avoir un cadre, avoir un suivi pour les médicaments, pas prendre des médicaments comme ça. Avoir quelqu'un qui check mes effets secondaires et qui puisse me dire, ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Ça fait trop longtemps que tu les as. Il faut réduire, il faut augmenter, il faut changer. Du coup, pour moi, l'ambivalence, elle est bénéfique. On ne demande pas une confiance aveugle. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas confiance aveugle dans la CAF. N'empêche que la CAF m'apporte certains trucs bien. Certains autres aspects sont catastrophiques, mais c'est pas un bon parallèle du tout, la CAF. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, je trouve ça bien. Enfin, c'est comme ce que je disais sur la position de méfiance, c'est-à-dire on fait pas une confiance aveugle, mais on prend en revanche les éléments qu'il y a à prendre. Et pour moi, aujourd'hui, il y a encore des éléments à prendre de ce côté-là. Peut-être que dans un an, deux ans, ce sera plus le cas. Mais là, aujourd'hui, je sais que j'en ai encore besoin. Et notamment par rapport à cette question des médicaments que moi, je prends toujours. Et il y a un truc que tu as dit, Juliette, qui m'a fait... Enfin, où tu disais parfois, on ne sait pas si c'est nos troubles ou... Et en fait, ça, c'est hyper fort et c'est hyper important. C'est... Bah, comme on sait qu'on part un petit peu en vrille, sinon on ne serait pas là, c'est hyper dur de démêler. Et de savoir si c'est si ça nous convient, si ça nous convient pas, si là c'était vraiment étrange ce que la personne a dit, ou si c'est nous qui surréagissons. Et ça, moi, et surtout le truc qui va après, l'élément qui va après, c'est et comment prendre une décision. Parce qu'on est pour l'autodétermination, on est pour le fait de choisir ce qui nous convient, mais comment on sait ce qui nous convient quand on va pas bien, en fait? Et ça, c'est un truc que je trouve hyper dur. Et le seul élément que j'ai trouvé pour m'aider par rapport à ça, c'est, un, pour le coup, en parler. C'est-à-dire dire, bah voilà comment s'est passé mon rendez-vous avec ma psychiatre. Est-ce que t'es ok pour que je te raconte mon rendez-vous avec ma psychiatre? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu bizarre. Et d'avoir comme ça un ami ou une amie qui peut nous aider à démêler. Et vraiment, ce truc de, quand on va bien, s'interroger sur ce qu'on veut quand on va pas bien. Je l'ai pas encore vraiment fait, mais je sais qu'il faut que je le creuse. Mais, enfin voilà, moi j'ai des états dépressifs qui reviennent assez régulièrement, et de me dire, ok, en fait, il me faut quoi dans ces moments-là, et me faire ma petite checklist, en parler, pareil, à un ou deux amis, et me dire, bah en fait, bon, bah si je suis mal, voilà ce que je m'étais noté. Et peut-être ça va m'aider à prendre une décision pour moi, pour pas me remettre dans des cercles vicieux à l'infini, quoi. Où on refait les mêmes trucs qu'avant et on va rechercher de l'aide à des endroits où on n'aura pas d'aide parce que c'est pas la bonne institution pour nous, c'est pas la bonne personne pour nous. Et voilà, je me dis ça, je me dis c'est normal d'être ambivalent en fait parce que c'est hyper compliqué, c'est normal de douter de soi parce qu'en fait on est pour l'autodétermination et mais n'empêche qu'on est dans des moments où potentiellement, on va pas prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, en fait, parce qu'on n'est pas 100% notre meilleur ami. Et donc, mon petit début de solution par rapport à ça, c'est vraiment le réseau amical, quoi. D'avoir une ou deux personnes à qui on peut en parler et qui peuvent nous aider à démêler. Pas à nous porter, mais juste à démêler. Et qu'on arrive à prendre la décision bonne pour nous, quoi. Voilà.
C'est super parce que ça fait le lien du coup avec le troisième bloc qui est le rapport aux autres. Et moi j'avais envie de vous demander comment justement dans vos groupes d'amis ou de militantisme ou autres vous gérez les différences, que ça soit de neuroatypie, de besoins, d'attentes, de sobriété ou d'addiction, de différences de rythme de chacun une. Voilà. Vous avez 4 heures.
Alors, je pense que je gère mal, notamment ce que, en tout cas, moi, j'ai un truc que j'observe chez moi, c'est que comme j'ai un peu grandi en insécurité à pas savoir à qui je peux me fier et tout, du coup, j'ai un espèce de niveau d'exigence par rapport aux engagements qui est parfois difficile à porter pour les autres. Ça veut dire que les gens, ils viennent pas et je fais la gueule, vraiment. Et du coup, ça c'est un problème parce que ça crée des espèces de. Ça crée des culpabilités, ça crée des trucs d'emprise. Enfin de, voilà, donc c'est. Voilà, donc ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler. Le truc de. Enfin, moi je vais parler d'alcool parce que c'est un sujet qui est très présent. Que, moi j'ai passé mon adolescence à boire et encore mon adolescence a été longue. et que j'ai plusieurs groupes d'amis très forts sur qui je peux vraiment compter dans mon quotidien, mais avec qui la mode de sociabilité, c'est de boire, même avec l'âge qui vient, avec les grossesses, avec tout. En fait, ça continue à être un truc comme ça. Et j'ai besoin de ces personnes, et j'ai besoin d'arrêter de boire. Et donc, ça pose tout le temps des questions. Et après... Bah oui, ça, c'est notamment dans les groupes, quoi. Je pense que ça va quand même réponse à cette question. Ouais. J'ai fini.
Bah, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Juliette, sur ce truc de... moi, je parle pas beaucoup, mais du coup, quand je parle, je sais que je suis un peu intense. Et du coup, finalement, j'en demande beaucoup à la personne qui m'écoute, même si c'est très peu courant. Et ça fait aussi des dynamiques un petit peu complexes sur lesquelles je suis en train de travailler. Et après, sur le groupe... c'est un truc sur lequel je travaille aussi pour essayer de davantage verbaliser et dire au lieu de juste ne pas venir expliquer, de dire ben en fait là je viens pas pour telle et telle raison, sans rentrer trop dans les détails, mais parce que l'évitement en fait ne fonctionne pas en amitié, c'est une mauvaise pratique. Et du coup donc voilà, je travaille un peu là-dessus. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis sur l'alcool. Moi, avec le médicament que je prends, il faut que j'évite l'alcool. Et j'y arrive pas. Et j'essaie, et j'y arrive pas. Et en fait, l'alcool est partout dans mes groupes de socialisation. Et en fait, je vais pouvoir me dire « ce soir, tu ne bois pas ». Et en fait, au bout du deuxième coca ou Perrier tranche, j'en ai marre et je craque. Et après, je m'en veux. Et ça fait un truc vraiment pas positif, quoi. Ça fait vraiment... j'arrive pas particulièrement à en parler dans mes groupes d'amis parce que je veux pas imposer mon truc et que je sais que c'est ma bataille, quoi. C'est à moi de gérer. Et je suis un peu dans une impasse là-dessus. Et franchement, je sais pas trop quoi faire. C'est vraiment là, je... Donc j'essaye de réduire. Je sais pas si ça suffit. Et voilà, il y a un équilibre un peu précaire comme ça qui se fait, quoi. Mais compliqué. Franchement, un sujet hyper compliqué, je trouve.
Oui, pour ma part, je suis dans un groupe d'amis qui a beaucoup de rapports très différents avec des troubles très différents et des rapports aux addictions ou justement à la sobriété qui peuvent paraître excluants les uns des autres sur le papier. Du coup, on a essayé de mettre en place tout un tas de dialogues et de liberté individuelle un peu de... Chacun gère ses consommations, n'incite pas, ne propose pas. On se repose la question de si c'est OK de fumer l'un à côté de l'autre, un peu la base de ces choses-là. Et pareil sur les différents sujets qu'on aborde pour essayer de faire attention aux différents traumas et aux différents troubles des uns et des autres. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir encore du mal à dire ce dont moi j'ai besoin et que je me retrouve beaucoup à écouter et à essayer de faire attention un peu à tout ce que je sais sur les autres personnes, mais que très souvent, je m'oublie et je le paie ensuite. Et donc, ouais, c'est vraiment une question que je me pose, notamment dans le militantisme, c'est cette manière d'articuler les différents troubles, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'énormément communiquer, d'autres qui ont besoin d'être beaucoup plus à distance de cette communication, et ça crée vraiment des endroits d'achoppement, et c'est vraiment difficile de mesurer, d'être mesuré là-dedans, de rassurer une personne tout en respectant l'énergie de tout le monde. Et bref, c'est vraiment des questions que je me pose.
Tant qu'on aura de l'amour, chasse en aïe. 3, 4. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les zones grises. Il y a du bon dans la froidure de novembre. Elle nous permet de nous coller plus ensemble. Sous une couette, tout nu, pas de babette. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis quatre murs, ce sera la joie dans nos cours.
À suivre.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Ah, oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso?
No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.